pourquoi cette conversation, elle me tenait à cœur. Pourquoi je pense que cette conversation par rapport au fait de s'arrêter, d'apprendre à s'arrêter, elle est essentielle aujourd'hui. C'est parce qu'on est dans un monde où l'on survalorise le mouvement, où l'on applaudit la vitesse, où l'on confond l'élan avec la productivité. S'arrêter est devenu un acte radical. Parce que la pause n'est pas neutre, elle touche à nos identités, à nos privilèges, à nos systèmes de valeurs, à la peur de décevoir aussi, à la peur d'être en retard, à la honte d'être inutile, à notre rapport au travail, aux soins, à l'argent, à la légitimité et j'ai même envie de dire à la vie tout court.
L'objectif est de repolitiser nos pratiques,
l'accompagnement et changer le monde.
Un projet militant.
Comment monter le volume ensemble ?
On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change.
Chères accompagnantes et accompagnants du Turfu, bienvenue à bord, Elsa Coutey speaking, ton accompagnante vénère préférée, pour un nouvel épisode d'Accompagnante, le podcast qui révolutionne l'accompagnement pour changer le monde. Que cela soit en solo ou avec des intervenantes complices, ici on dit que l'accompagnement est politique et qu'on est là pour faire bouger les choses. Et on t'invite à les faire bouger avec nous et à créer une communauté engagée et fière de l'être. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. On se retrouve de l'autre côté après cette dose de pop-pop-power.
Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle table ronde du Punchline Festival. Comment apprendre à s'arrêter ? La pause comme art de vivre, d'exister, de se retrouver. Aujourd'hui, on va donc parler d'un mot qui paraît simple, la pause, mais qui, en réalité, ouvre tout un champ, tout un continent qu'aucune de nous trois, d'ailleurs, n'a choisi d'explorer juste pour le fun. Voilà, là, je nomme Shama et je nomme Asma qui sont avec moi dans cette conversation-là. La pause nous a happés, parfois bousculés, souvent, du coup, transformés. À différents temps et à différents degrés durant nos arrêts respectifs. Mais en tout cas, cette conversation, si elle existe aujourd'hui, c'est parce qu'elle est née d'un croisement justement de nos vécus, un croisement de pauses, d'arrêts simultanés. Donc, parce que 2024-2025, voilà, c'est une période où étrangement, nous nous sommes toutes les trois arrêtées. Pour ma part, ma pause a pris la forme d'un congé maternité et après d'un congé parental. Elle a commencé en janvier 2025 et je n'ai repris que fin septembre de cette même année. C'est un arrêt qui n'avait rien de reposant. Enfin, on parle de congé maternité, mais il faudra peut-être qu'on se pose la question de la notion du congé. Mais en tout cas, c'est une pause, un arrêt qui m'a obligée à redescendre dans mon corps, puisque j'ai quand même accouché. Dans mes limites, dans mes vérités aussi, mes croyances les plus basiques, un arrêt qui a réorganisé ma manière de travailler, d'accompagner, de transmettre et d'habiter ma vie. Et ça, on pourra revenir dessus, bien évidemment. De son côté, Asma a pris ce qu'elle a appelé un congé sabbatique. Asma, tu pourras modifier si, mais je pense que c'était ça, tu l'avais nommé comme ça. De l'été 2024 à l'été 2025. Une coupure choisie, posée, imposée. Presque un acte politique dans un monde qui ne supporte pas qu'on s'extrait de la production et de la productivité. Une mise en retrait pour mieux se retrouver. Et Shama, elle a vécu une pause dans son activité donc de janvier 2025 à septembre 2025. N'hésite pas à me dire si je me trompe aussi, Shama, sur les dates, mais c'est ce que j'avais noté de mon côté. Une pause profonde qui n'avait rien à voir avec des vacances, mais plutôt avec un geste nécessaire pour se réaligner, pour ne plus fonctionner par automatisme, pour ne pas se perdre à force d'en donner trop. L'origine très précise de cette table ronde, c'est qu'un jour, Shama et moi, nous sommes rendus compte d'un truc, c'est que nos épisodes de retour, de comeback, sur nos podcasts respectifs, donc Baz, Voices of Defiance, pour Shama et moi, c'est Accompagnante, nos épisodes de retour sur nos podcasts, donc, avaient presque le même titre. Le mien, c'était « Je ne reviens pas, j'arrive ». Et celui de Shama, c'était « Revenir, mais sans refaire ». Donc là, je me suis dit « qu'est-ce que ça raconte ? C'est pas anodin, cette pause, ce retour, ce que ça déplace, ce que ça casse, ce que ça révèle. Bon, c'est pas neutre. Et puis, ça serait peut-être bien qu'on puisse en parler. Et je me suis souvenue en plus que j'avais été témoin de loin des premières étincelles de la pause de Shama, de ses réflexions, de ses questions, de des besoins derrière ça. J'ai vu le mouvement de l'arrêt, j'ai vu Samu, j'ai vu le retour aussi. Et j'ai réalisé aussi qu'Asma avait traversé aussi une pause au même moment. Donc, on est sur trois trajectoires différentes, trois temporalités, trois raisons, mais un même geste, donc arrêté. Et donc, je pense que ce n'était pas juste une coïncidence. Il y avait quelque chose à nommer, quelque chose à transmettre, quelque chose qui dépasse nos parcours individuels. Et j'avais aussi envie de poser avec vous dans cette introduction pourquoi cette conversation, elle me tenait à cœur. Pourquoi je pense que cette conversation par rapport au fait de s'arrêter, d'apprendre à s'arrêter, elle est essentielle aujourd'hui. C'est parce qu'on est dans un monde où l'on survalorise le mouvement, où l'on applaudit la vitesse, où l'on confond l'élan avec la productivité. S'arrêter est devenu un acte radical. Parce que la pause n'est pas neutre, elle touche à nos identités, à nos privilèges, à nos systèmes de valeurs, à la peur de décevoir aussi, à la peur d'être en retard, à la honte d'être inutile, à notre rapport au travail, aux soins, à l'argent, à la légitimité, et j'ai même envie de dire à la vie tout court. Parce qu'en plus, dans nos métiers où on accompagne, où on crée, où on transmet, on ne nous apprend jamais à nous arrêter vraiment. On nous apprend à tenir, à donner, à absorber, à créer du sens pour les autres, mais pas à sentir quand nous, on est en train de tomber. Parce que nos pauses respectives ont été des mues, des passages initiatiques presque, des moments où il a fallu traverser le vide, l'inconfort, la honte parfois, la réparation souvent, pour retrouver de la fiabilité aussi intérieure. Et là, la fiabilité intérieure, c'est une expression qui vient d'Asma. Et parce que nous savons que beaucoup de personnes ici qui accompagnent, créent, entreprennent, enseignent, prennent soin, sont au bord de ce besoin d'arrêt, ou en plein dedans, ou juste après. Alors aujourd'hui, on ouvre un espace pour ça, un espace pour regarder la pause autrement, pas comme un trou, pas comme une faiblesse, mais comme un art de vivre, une posture, une porte, un retour à soi. Un petit mot sur le Punchline Festival et sa cagnotte. Le Punchline Festival donc, est entièrement autoproduit par moi-même. Et si vous voulez soutenir cet espace, si vous voulez permettre à ces conversations d'exister, de circuler, vous pouvez contribuer à la cagnotte du Punchline Festival, même symboliquement. C'est ce qui justement permet de continuer à rendre tout ça accessible à tout le monde. Et si aujourd'hui quelque chose vous touche, un mot, une phrase, une image, un souvenir, une prise de conscience, vous pouvez déposer tout ça sur le mur du feu collectif. Je vous enverrai un mail pour vous en parler davantage. C'est notre mémoire et notre trace. Et c'est un feu commun. Pour commencer, donc, je vais me tourner vers Shama et Asma. J'aimerais vous proposer de vous présenter avec vos mots à vous, de nous dire comment ça va aussi, quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que ça vous fait, et d'enchaîner avec, finalement, quand on parle de pause, quand là, moi, je prononce le mot pause, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Une image, une sensation, une anecdote, voilà. Quelque chose qui vous vient quand on parle de pause. Je vous passe le micro.
Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vous connais pas, du tout. Donc ça me fait plaisir d'être à un endroit où on ne se connaît pas. Donc je m'appelle Asma, je suis marocaine, je suis au Maroc d'ailleurs, et Shama aussi. On est toutes les deux dans la même ville. Et je suis... accompagnante, je suis thérapeute et je suis praticienne somatique plus spécifiquement, avec certaines spécificités qui sont que je travaille avec des femmes assez majoritairement sur des sujets de sexualité et d'intimité, mais pas que. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je peux dire aussi, parce que ça, je trouve ça marrant, ça n'arrive jamais, que Shama et moi, on a grandi dans la même ville, on a été au même lycée. Et on a eu une trajectoire de vie qui est très similaire. Voilà. Enfin, on n'a pas la même vie, hein, mais je veux dire, oui, on a des choses quand même qui sont très en commun.
Mais je sais.
On habite à 10 minutes en voiture l'une de l'autre. Ouais.
Ah, mais c'est énorme. Je savais pas du tout. Je savais que vous étiez dans la même ville là maintenant, mais pour le passé comme ça en commun non plus, je savais pas du tout. C'est énorme.
Si. Ouais, ouais. On a plein de références en commun. Hein. On a. Ouais.
Trop marrant. Et vous vous connaissiez à l'époque ?
Pas du tout.
Ah ouais, trop drôle.
J'adore. On n'a pas le même âge aussi. Je pense que quand Shama était en terminale, je devais être au collège.
Mmh, ok.
Donc, ouais. Ouais, et du coup, oui, ta question, c'était la pause.
Mmh.
Alors, très bonne question. La pause, maintenant, c'est devenu pour moi, et du coup, c'est la première chose à laquelle je pense quand j'entends ce mot. C'est devenu pour moi une pratique, un truc, un réflexe. C'est pas quelque chose de grandiose, comme on peut s'imaginer, genre une grande pause, un congé sabbatique, mais c'est quelque chose que à laquelle je reviens plusieurs fois par jour quand je me sens emportée par des momentum qui sont trop grands, par des choses qui m'emportent. C'est faire la pause. Je fais une pause. Donc, c'est plus à ça que je pense quand j'entends le mot pause.
J'ai déjà juste noté la punchline, la pause comme un réflexe, tu vois.
Mais tu sais, en plus, pour parler plus techniquement, parce que je l'ai pas dit dans la présentation, mais je travaille surtout sur le trauma, je suis traumathérapeute. La pause, c'est un des outils principaux de la traumathérapie. Hein. Genre, c'est quelque part ce que je dis, ça peut être interprété de façon spirituelle, mais aussi de façon technique, d'une certaine façon. Tu vois, quand tu commences, quand t'es déclenché, comme on dit, quand t'es triggered, la première chose à faire, c'est de faire une pause. Parce qu'en fait, si tu fais pas une pause pour sentir tes pieds et pour te rendre compte où tu es, qui tu es, en fait, t'es emporté par la vague, tu vois. Donc, la pause, c'est un vrai truc que je vous invite à inviter dans vos vies. Voilà.
Trop bien. J'adore. Bonjour tout le monde. Hyper contente d'être là. Merci pour l'invitation, Elsa. Moi, c'est Shama, donc, et je suis à Rabat, au Maroc, depuis maintenant 7 mois, quelque chose comme ça. Après 19 ans, en dehors de mon pays, back to the roots. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? La présentation. Avant, je me prenais tellement la tête. Mais comment je vais nommer ce que je fais avec un mot ou deux? C'est impossible. Et maintenant, j'essaye plus. Voilà. C'est fini d'essayer de me présenter en un mot. Je travaille avec des entrepreneuses, des artistes, des femmes dirigeantes. Donc, moi aussi, c'est majoritairement des femmes et puis des personnes de la communauté LGBT. Et je les accompagne sur tout ce qui est leadership, prise de parole en public, storytelling, qui est un concept qui m'est très cher. Il y a aussi une verticale où je travaille avec des personnes qui veulent politiser leurs paroles. Mais si je devais résumer ça, en vrai, moi, le truc qui me fait kiffer, c'est d'aider les gens à oser. C'est juste ça. T'as envie de dire un truc, t'as envie de faire un truc, je suis là. Ok, let's go. Vous m'appelez comme vous voulez, hein, cheerleader, groupie, trampoline. Voilà. Et cette pause, qu'est-ce que ça m'évoque, le concept de pause? Je crois que le premier mot qui me vient, c'est régénération. Tout ce que dit Asma me parle, hein, sur le fait que ce soit devenu une pratique, un réflexe, une posture. Je suis hyper d'accord avec ça. Et avec ça vient ce mot régénération, donc régénérative, régénératif, et qui pour moi, du coup, en fait quelque chose de primordial, de vital. Parce que si tu te régénères pas, tu crèves. Donc, au final, c'est ce que je peux dire. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions, tu me diras, Elsa.
C'est parfait. C'est parfait. Et donc, on va démarrer avec cette première partie du « avant la pause ». Quand le corps dit stop, parce que je sais que ça s'est passé beaucoup par le corps pour vous deux. Donc, on va explorer justement ce qui mène à la nécessité de s'arrêter, ce qui s'épuise avant la décision. Et donc, la première question que j'avais envie de vous poser à toutes les deux, c'est à quel moment vous avez senti qu'il fallait vous arrêter et quels ont été les signes pour vous?
À quel moment j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête? 2024, ça a été une année de restructuration, en fait, pour moi, dans mon entreprise. J'ai changé beaucoup de choses. J'ai lancé mon podcast. J'allais vraiment vers le... Je sentais qu'il y avait une nouvelle direction à prendre et j'avais commencé à la prendre. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose que je touchais pas du bout des doigts, tu vois. Enfin, il y avait un truc qui manquait. En tout cas, c'est ce que je me disais à l'époque. Je me disais, il y a un truc qui me manque, il y a un truc que je touche pas. Et je me rappelle, j'avais fait un accompagnement justement avec toi, Elsa. On avait fait, ça s'appelle Echo. C'est ça, hein, je dis pas des bêtises. Non, c'est pas ça. Je confonds avec Estelle.
Ouais, Echo, c'est Estelle. C'est chez Estelle. Estelle, bisous Estelle, si tu me penses, ça va faire marrer.
Mais le truc c'est avec l'écho, la parole et tout.
Exactement. Mais on est dans cet univers-là, puisque l'accompagnement, c'est miroir sonore. Donc on est
miroir sonore. Merci. Désolée. Mais voilà, tu vois, miroir, ça fait écho. Voilà, moi, tout s'est mélangé dans ma tête. Donc, on a fait ça avec Elsa. Et puis, à un moment, je buguais. Je lui disais, mais En fait, je sais pas, j'ai pas la réponse, ça vient pas, ça me saoule. Elle me dit, mais ok, de quoi t'as besoin? Et là, je lui dis, en vrai, j'ai besoin de repos. Elle me dit, bah, pourquoi tu fais pas ça? Et moi, je suis là, ah! J'y avais pas pensé. Et j'avais pas pensé, autant le repos, c'est pas quelque chose qui m'est étranger, hein. Je fais pas partie des personnes, et je sais qu'il y en a beaucoup, qui sont des acharnés de travail, qui taffent de 8h à 23h. J'ai jamais été comme ça. Je me suis beaucoup appuyée sur mes facilités quand j'étais à l'école. J'ai toujours été team last minute. Donc, j'ai jamais été cet acharné de travail qui a du mal à s'arrêter. J'avais quand même intégré beaucoup de moments de soi-disant pause dans ma vie. Mais en fait, ces pauses n'étaient pas réellement des pauses. Parce que c'est des pause anesthésiante, t'es pas en train de vivre le truc, t'es en train juste de t'anesthésier le cerveau en mangeant, en regardant Netflix, en lisant je sais pas quoi, tu te dis allez je vais peut-être écouter ce podcast ou lire ce livre, ça va être intéressant, ça va me changer les idées, mais en réalité t'es toujours kéblo sur ton sujet et avoir ta réponse, tu vois. Et donc, j'avais jamais réalisé que je pouvais faire me reposer autrement que ce que je faisais jusque-là, parce que je pensais que je le faisais déjà très bien. Et c'est là que je me suis dit, ok, ben là, je sens que dans mon corps c'est différent. Je sens que mon corps avait parlé avant ma tête, avant que je prenne, que je réalise ça avec toi, Elsa. Il y avait ce truc de bah, j'ai plus de créativité, c'est pour ça que j'étais venue à toi, mais j'ai plus de jus, j'ai plus de créativité, je suis en angoisse permanente de l'après, qu'est-ce que je vais créer, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais proposer, gros brouillard mental, beaucoup de flou, beaucoup de flou. Et là, pour les personnes qui connaissent un peu le human design, c'est un outil avec lequel je travaille depuis hyper longtemps, ben, en gros, j'avais trois centres, le centre de la tête, le centre de l'ajna et le centre du sacral qui était fin des petits pains, quoi. C'était brouillé, c'était le burn-out de ces centres-là. J'étais épuisée et mentalement et physiquement. Donc, quand t'es épuisée comme ça, ben, tu vois plus les choix qui s'offrent à toi. C'est ça qui se passait. C'est que j'arrive bien sûr que j'étais en angoisse du futur parce que je voyais plus que ce qu'il était possible de faire. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait ce choix qui était et un choix conscient parce que je me suis posée, notamment avec mon mari, pour en parler, etc. Ok, c'est quoi les options qui s'offrent à nous, blablabla. Mais en même temps, c'était un choix de survie parce que j'aurais pas pu continuer autrement. Enfin, comme ça, je veux dire, j'aurais pas pu continuer de la même manière.
J'aimerais que tu précises comment c'était dans ton vécu corporel, mais aussi peut-être à la lumière, tu vois, de l'outil du human design. Mais ouais, hyper intéressant que là tu nommes que c'est vraiment ton corps qui a parlé avant ta tête, quoi. Et que c'était. Après, je vais donner le micro à Asma, mais on sent aussi il y avait la notion de. Ouais, de comment c'est dur finalement de l'avoir, en fait, comme une possibilité, cette pause, ce repos, que vraiment c'est hyper, hyper compliqué de même y avoir accès. Et que oui, après tu dis, ah bah oui, c'est vrai, ah bah oui, mais non, mais en fait, ce moment, c'est pas du tout ça.
C'est vraiment intéressant, on en avait déjà parlé toutes les deux plusieurs fois, mais c'est ce truc de la différence entre le vide qui régénère et le vide qui t'enfonce, en fait. C'est que parfois, on se repose mal. Tu penses que tu te reposes parce que tu ne fais rien. Donc, ça tourne autour du rien, quoi. Sauf que on bloque ce rien, on laisse pas ce rien composter, en fait. Donc, il y a rien qui se composte parce qu'on a encore en nous un espèce de momentum d'anxiété qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et mais attends, mais faut que je trouve une solution, faut que j'ai des réponses, faut que l'énergie revienne, etc. etc., etc. Et donc, en fait, il n'y a pas de repos cellulaire et il n'y a pas de repos aussi, entre guillemets, spirituel. Et par ça, j'entends que, comme la nature de la vie est cyclique, enfin, c'est un fait, tout dans les processus physiologiques, naturels, etc., fonctionne par saison. Ça nous amène un peu à ce truc de la pause, en fait, elle va s'imposer à toi. Enfin, je veux dire, l'hiver, c'est... L'arbre, il se bat pas contre l'hiver, en fait. Et donc, je pense qu'il y a un peu ce truc-là, un peu, qui est pas juste spirituel, genre en mode, c'est une idée. mais qui vraiment s'incarne, ce truc d'être un arbre. Genre d'être un... De subir certaines lois, entre guillemets, parce que c'est une certaine géométrie. Donc, les saisons, c'est une forme de géométrie, tu vois, qui circule et qui est complètement différente de la géométrie du capitalisme qui, elle, ne s'arrête jamais. Et comme on a grandi en subissant une géométrie fondamentalement traumatique qui ne respecte pas les lois de la nature, enfin les lois du monde, quoi, entre guillemets, c'est ça aussi qui génère énormément de souffrance et qui nous empêche de nous reposer correctement. Et pour dire quelque chose de différent de Chama, parce qu'il y a une bonne partie de mon histoire qui est la même que celle de Chama, mais pour apporter un peu plus de diversité, dans mon cas, il y avait aussi un truc hyper intéressant. Je sais qu'une ancienne version de moi n'aurait pas écouté. Et c'est là que je vois que quand même parfois le travail, enfin certains cheminements de notre vie nous rendent plus aptes à prendre certains risques qu'on n'aurait pas pris avant. C'est que l'an dernier, donc quand j'ai décidé de prendre mon congé, c'était pas juste arrêter de travailler, donc arrêter de faire des séances, parce que c'est surtout ça la pause que j'ai fait concrètement, mais c'était surtout aussi quitter la France. Donc c'était plus complexe que juste le travail et la façon dont ça a eu lieu n'avait aucun sens logique. Il y a beaucoup de ça dans mon histoire, donc j'avais juste envie d'en parler aussi pour pas occulter cet aspect-là qui peut-être va parler à certains d'entre vous. C'est que il faut savoir que moi j'ai vécu en France 15 ans, j'ai fait mes études en France, je suis ingénieure à la base avant de faire ma reconversion et de devenir thérapeute, et donc j'ai vécu 15 ans en France et sur ces 15 ans, je pense que quand je rentrais au Maroc, c'était une fois par an. Voilà. Comme ça me permettait de prendre d'autres vacances, de voyager ailleurs, etc. Donc vraiment, je rentrais ici une fois par an. Ça me convenait plutôt bien. Et c'était un rythme que j'ai jamais vraiment questionné, quoi. Je choisis une époque de l'année. Je viens, je reste quelques jours, je repars, etc. Et ce qui s'est passé entre 2023 et 2024, et début 2024, c'est que je me suis retrouvée à avoir envie de venir très souvent. Et c'était une envie qui me dépassait, en fait. C'était une espèce d'appel de « faut que je vienne souvent ». Très étrange, vraiment très nouveau pour moi. Ça n'arrivait jamais avant. Et j'ai fait plein de voyages. J'ai fait une semaine avec un pote, une semaine avec des potes. Plusieurs fois, je suis venue toute seule. Une fois, c'est ma petite sœur qui m'a traînée parce qu'elle vit en France. Plein de fois, je me suis retrouvée à venir. Et un truc spécifique qui s'est passé, c'est que là où, à chaque fois, pendant mes 15 ans, je vais à l'aéroport de Rabat-Salé, tranquille, quoi, mes parents me déposent, tout va bien. Là, j'étais en larmes, systématiquement. Et souvent, plusieurs jours avant. Et j'étais emportée dans des élans de deuil et de tristesse qui me prenaient à des moments de la journée. Et, des moments où, je vais me retrouver à pleurer toute seule. Mais pleurer des larmes d'amour, en fait. Des larmes de deuil, des larmes de... Pas des larmes de « ça va pas du tout ». Non, non, vraiment, c'était des larmes d'amour. Et je savais pas quoi faire de ça au début, évidemment. On se dit « mais what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et j'ai fini par me dire « écoute, tu peux pas essayer de planifier un changement de vie, un déménagement définitif au Maroc, alors que tu ne sais pas pourquoi, en fait. T'es juste prise par des émotions qui te dépassent. » Et c'est là que j'ai décidé de prendre un aller sans retour. Je me suis dit, OK, tu sais quoi, tu testes ton truc. Tu prends un aller sans retour. Donc, j'ai sous-loué mon appart à Paris. J'ai débarqué et tout. Mes parents étaient contents. Ils étaient là, très bien. Pas de souci, reprends ta chambre, fais ce que tu veux. Donc, je suis rentrée et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'arrête de bosser. Tu vois, c'était genre, je vais tout faire en même temps. Je vais essayer de me concentrer sur ce que ça signifie pour moi, mon rapport à la Terre, en fait. Donc, c'était surtout ça, mon exploration. C'était mon rapport à la Terre, mon rapport à l'ancestralité. Parce que c'était un appel ancestral, même si j'avais pas les mots à l'époque, mais c'était un appel ancestral. C'était un appel à clôturer des choses, à rattraper aussi des choses que j'avais pas pu faire toutes ces années d'avant, réparer, guérir certaines choses. Mais je pense surtout retrouver ma place. Et si j'étais restée en France à essayer de rendre logique mon séjour en France, parce que c'est là-bas que ma vie est, quoi, ma micro-entreprise, mon taf, enfin mes potes, enfin tout ce que tu veux, mes comptes bancaires, c'est là que je paye mes impôts, enfin ma vie est en France. Si j'avais continué à rendre ça logique, je pense que je serais passée à côté d'un parcours de vie carrément, en fait, et de carrément de certaines résolutions de blessures qui sont carrément ancestrales et qui dépassent juste ce que je consentis à l'époque. Donc là, c'était franchement une pause sacrée, et j'utilise pas ce terme à la légère ou pour romantiser ou poétiser le truc, mais c'était vraiment quelque chose de l'ordre de mes ancêtres avaient des choses à me dire que je ne pouvais pas entendre quand j'étais en France. Et là, ça fait un an où j'ai eu beaucoup de prières, énormément de prières, de expliquer-moi pourquoi je suis là, parce que je dois inévitablement être là, mais ça n'a aucun sens pour moi. J'ai pas de clients ici, j'ai pas de taf ici, j'ai pas grand chose ici. Et c'est en train aujourd'hui de se clarifier. Et par rapport à ce que tu disais, Elsa, au tout début, quand tu disais que tu ne reviens pas, mais qu'il y a des choses qui changent, et même Shama d'ailleurs dans son podcast où en fait tu reviens pas comme t'étais avant, enfin tu ne refais pas, c'est que ça a complètement changé mon identité en tant que praticienne. D'ailleurs, je pense que même ces termes de thérapeute, potentiellement que je les utiliserai plus dans quelques semaines, c'est un peu le truc vers lequel je suis en train d'aller. Une réalisation de ce que j'ai réellement envie de faire et ce que je suis censée faire, en fait, qui est cohérent avec moi, avec mon histoire, avec les gens qui étaient là avant moi, quoi, dans mes lignées, quoi, et les gens que je suis réellement censée servir. Et toutes ces réponses-là, toutes ces choses-là qui, en fait, créaient de la souffrance dans mon travail, mais que je ne pouvais pas nommer en ces mots, parce que c'était juste une souffrance de « je suis fatiguée, je me sens pas alignée ». Enfin, tu sais, on me dit des choses comme ça, quoi, parce que tu sais pas, trop t'es à côté, t'es pas bien. Là, c'est en train d'être cohérent pour moi. Et donc, il y a quelque chose parfois dans la pause où autoriser et permettre le vide, voire même le chaos, voire même des changements très drastiques, ça t'amène à découvrir ton nouveau chapitre dans la vie, tu vois. Et pour moi, c'était très clairement le cas. Parce que là, maintenant que je retourne au travail, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de ce que je fais maintenant qui va ressembler à ce que je faisais après, que je faisais avant. Donc, ouais. Et un peu ce truc de qui a beaucoup changé pour moi, de tu n'es pas en retard, mais tu es pile à l'heure. Toi, t'es pile à l'heure pour ton initiation, pour ta prochaine initiation. Et parfois, on fait l'erreur de penser que notre identité dans notre marketing, surtout maintenant, on a plein de terminologies, le branding, le storytelling, etc., qui sont des super notions, hein. Mais parfois, on a tendance à penser qu'en fait, on a une seule identité, on a une seule vision dans notre business. Genre, on est là pour tel sujet. Sauf qu'en réalité, justement, si on revient à la nature cyclique du monde, je me rends compte, en tout cas, dans mon expérience personnelle, qu'en fait, on traverse des initiations. J'avais une première initiation quand je me suis reconvertie après ma première carrière d'ingénieur. Mon initiation, c'était d'être accompagnante sur des sujets de sexualité et de parler de sujets dont pas grand monde parlait, en fait, dans le monde sexe positif, etc. Et en fait, maintenant, il y a une nouvelle initiation. Et il y en aura d'autres, en fait, des initiations, tu vois. Mais il y a un peu ce truc d'accepter que je n'aurai pas forcément de constance et de permanence dans ce que je fais. Et ça fait du bien. Voilà. C'est une bonne réalisation.
Top. Merci beaucoup, Asma, pour tout ce que tu dis. C'est hyper, hyper puissant. Et moi, de loin, je sais pas comment Shama, toi, peut-être tu veux réagir, mais j'imagine bien qu'il y a plein de résonances. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment ça, peut-être, ça résonne pour toi? Qu'est-ce que toi, tu peux dire pour toi, ton vécu?
Bah forcément, oui, on en parle beaucoup avec Asma, c'est quelque chose qui change beaucoup. Ce retour aux racines, c'est puissant. Et pareil, moi, c'était pas du tout prévu, hein. On venait de déménager début 2024 à Barcelone, donc autant te dire que rentrer au Maroc en 2025, c'était pas l'objectif. Et 6 mois après qu'on soit arrivé à Barcelone, c'est mon mari qui est français qui me dit « Et si on s'installait au Maroc ?» Et là, je lui dis « Hein ? Mais ça fait 6 mois qu'on vient de déménager. » Il me dit « Je sais pas, je sens le truc. Je sais qu'on se disait peut-être dans quelques années, mais je sens le truc. » Moi, j'étais là « Ouais, non. Ah, je me relance pas dans un déménagement, c'est dead. » Mais lui, il m'a dit « Écoute, moi, je te dis où j'en suis. T'en fais ce que tu veux. Voilà. Au moins, tu sais. » Donc j'ai laissé couler. On avait plein de choses à régler encore, des choses à régler encore à Paris, tout ça. J'ai laissé passer quelques mois et à un moment, ça s'est imposé à moi un peu comme une évidence. Il m'a laissé, il sait comment je fonctionne, il m'a laissé faire mon petit processus de mon côté. Et à un moment, j'étais là, ok, je pense que c'est le bon moment. Et c'est très drôle parce que tu sais, on parlait tout à l'heure de comment le corps en fait, réagit avant. J'étais en train de checker mon cycle menstruel des deux dernières années pour un truc de santé. Et juste, même quand je pensais que j'allais être en pause à partir de janvier 2025 et tout, en fait, avec tous ces trucs stressants de déménagement et tout, et même quelques mois avant, mon cycle, c'est complètement... c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, j'ai un SOPK. Donc, de base, mon travail que je fais depuis plusieurs années, c'est d'essayer d'avoir un cycle normal et j'avais réussi à le faire. Mais là, ça faisait des mois que c'était n'importe quoi. Et quand je suis rentrée au Maroc, il s'est rétabli. Il y a un truc qui s'est passé. Alors bon, on n'est pas en mode horloge suisse, mais pour moi, avec un SOPK, c'est très, très bien. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la pause, oui, mais la pause dans les bonnes conditions, dans le bon environnement, de la bonne manière. Il y a quelque chose de l'ordre de, c'est pas juste, ok, bah, j'arrête de travailler et tout sera bon. Non, c'est vraiment à quel moment est-ce que je décide. Parce que les premiers mois, et c'est ce que j'ai dit dans l'un de mes podcasts, je croyais que j'étais en pause à partir de janvier, mais en réalité, non. Parce que entre le truc de déménagement, entre tous les moments de culpabilité, comment je vais la faire, et puis comment, et quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura des gens qui vont m'attendre? Comment je vais rentabiliser cette pause, grosse pensée capitaliste qui débarque dans ta gueule comme ça, alors que ça n'a aucun sens de se dire ça. Peut-être que je devrais me concentrer du coup sur mes problématiques perso pendant cette pause. Non, en fait, ça m'a demandé vraiment du temps de lâcher tout ça. Et c'est qu'à partir du moment où, et ça a coïncidé avec le fait que je rentre au Maroc, c'est qu'à partir du moment où j'ai lâché toutes ces émotions de culpabilité, de honte, de confusion, etc., que j'ai vraiment commencé à l'expérimenter et que il y a eu des vrais changements.
Non, c'est hyper, hyper, hyper fort. De toute façon, on va revenir bientôt sur le pendant la pause et tout ce que vous avez pu vivre et justement peut-être les différentes pauses, les différentes couleurs de la pause, les différentes textures de la pause. Mais avant ça, j'avais quand même envie qu'on fasse un point ensemble sur qu'est-ce qui rend si difficile le fait de s'arrêter dans nos métiers d'accompagnement ou liés à l'entrepreneuriat ou liés à la vie tout court, quoi. Comment ça résonne pour vous, cette question-là, de qu'est-ce qui rend si difficile le fait, voilà, de vraiment s'arrêter?
Je pense qu'il y a plein de trucs. Et je pense que c'est que à chacune de faire son bilan, tu vois. Parce qu'on est quand même des personnes uniques, tu vois. Mais il y a quand même des tendances intéressantes dans nos métiers, c'est que déjà, c'est intéressant de se demander pourquoi on fait ce métier, tu vois. Ça paraît con comme question, mais je pense que si on devait faire des stats, on doit être un bon pourcentage de personnes qui auront une préférence sur le triangle dramatique pour la posture du sauveur. Et du coup, ça rend ça très difficile de décider, de dire, mais parfois juste de dire à ta cliente, en fait, je veux plus bosser avec toi pour des raisons tout à fait légitimes, même parfois pour son propre bien. On peut avoir du mal à faire ça, avoir une posture, entre guillemets, propre. Mais alors, quand tu te barres pour toi-même, sans raison, et que tu lâches tout, donc il y a un sujet avec ça, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un sujet avec le fait de clarifier avec soi-même pourquoi on fait ce travail et est-ce qu'on pense qu'on doit quelque chose. Enfin, ouais, se poser juste la question de la juste relation, quoi. L'écologie avec les gens avec qui on travaille. Je pense aussi... Ouais, il y en a beaucoup. Mais la deuxième à laquelle je pense, c'est l'argent. En fait, aussi, tu vois. Et ça, en vrai, je pense que c'est un sujet qui est très important, qu'on peut pas vraiment occulter, mais on peut pas non plus le traiter en entier ici, tu vois. Mais c'est qu'il y a un gros sujet, mais genre un gros sujet, sur le confort matériel des personnes qui font du travail de soins, quel qu'il soit. Tu vois. Il y a une vision, souvent sociétale, hein, que ce sont des personnes qui devraient se sacrifier. Et qui devraient proposer des tarifs bas, ou qui devraient même négocier leurs tarifs, ou qui devraient faire...
qui devraient être accessibles ou qui devraient, etc., etc., etc. Donc déjà, on a deux bases, un certain setup, entre guillemets, dans lequel on débarque dans cette société, où les chances de burn-out sont très élevées, tu vois, à cause de ça. Et notamment, si on fait du travail de soins qui est particulièrement profond, genre par exemple moi qui travaille avec les traumas, et ben si je monte pas mes tarifs et que je travaille moins, c'est certain que je fais un burn-out au bout de 3 mois, tu vois. Et donc reconnaître ce genre de choses, tu vois, et se dire que ma santé, c'est un peu, tu sais, on en revient un peu à ces lois de la nature dont je parle, que je trouve quand même très intéressante, c'est que dans la nature, personne se sacrifie pour personne d'autre, en fait. Tu vois, il y a pas ce sens de sacrifice, n'existe pas. Il y a une forme d'écologie, il y a quelque chose qui est régénérateur pour tous. Et donc si moi je ne suis pas bien, moi je ne suis pas reposée, j'ai bien dormi, bien mangé, et que j'ai fait mon sport, ma méditation, mon contact avec la nature, je ne peux pas t'aider. C'est comme ça. Et donc reconnaître ce genre de truc a été hyper important pour moi. Et franchement, être au Maroc, c'est aussi intéressant. Pourquoi ? Parce que on est, certes, en plus on en parlait avec Chama il y a 2 jours, on est certes un peuple avec beaucoup d'hospitalité, on est très généreux, tu vois, c'est un fait. Mais, et ça c'est quand même très important de le savoir, d'un point de vue spirituel, on n'est pas dans le sacrifice. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de je ne donne pas de l'argent que je n'ai pas, et que moi, être bien et garantir le bien-être pour moi et mes enfants passe en premier. Donc il y a ce truc qui est un peu différent de la société française à ce niveau-là, surtout sur le soin. Et d'ailleurs, la première personne qui m'a engueulée, c'est ma mère. Quand j'ai repris le travail et que j'étais en train de redécider de mes tarifs, c'est elle qui m'a dit, ça va pas la tête. Alors que ma mère n'a rien à voir avec ses métiers, vraiment, mais genre, ma mère était instite. Elle m'a juste dit, mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend de faire ce genre de tarifs? Tu me doubles ou triples ce montant tout de suite, parce que sinon, tu vas finir en dépression, là, au bout de, tu vois. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a rappelé qu'il y a des conditions avec lesquelles on peut travailler. Et donc ça rend très difficile la pause. Et parce qu'en fait, finalement, la pause et l'argent, c'est la même chose, en fait. C'est se mettre dans une position où je réponds à mes besoins avant de répondre au tien. Et ça, c'est un truc, je pense, qu'on doit se rappeler régulièrement. Mais il y en a d'autres, hein. Chama, tu dois en avoir d'autres en tête.
Ouais, déjà, tout ce que tu dis, pareil, c'est les premiers trucs qui me viennent à l'esprit. Et l'autre chose à laquelle j'avais pensé, c'était, il y a plein de gens qui pourraient faire des pauses, hein, parce que tu vois, t'es maman solo, il y a vraiment personne pour t'aider, t'as pas de famille, rien du tout, machin. T'es solo, peut-être que oui, tu peux peut-être pas prendre 9 mois sabbatique. Ça, tu vois, je peux complètement l'entendre. Mais il y a des personnes qui ont ce privilège-là de pouvoir le faire, mais qui le font pas, qui prennent pas de pause. Et il peut y avoir 1000 raisons à ça. Ce que j'ai pas mal entendu et ce que j'ai eu un peu comme mini-pensée à un moment aussi, pour les personnes en couple, et notamment en couple hétéro, c'est ce truc de « Ah ouais, je vais dépendre de mon mari. » Et quand on a été élevé dans le féminisme, tu vois, il y a une petite pensée qui vient dire, qui vient t'embêter un petit peu, tu vois, te dire non. Alors que tu me poses la question, et si la situation était inversée, est-ce que t'aurais pris soin financièrement de ton mari? Oui. Enfin, je me pose même pas la question. Il a besoin de faire une pause. Vas-y. Ok. Let's go. Mais c'est sur le moment, heureusement, c'est une pensée qui a duré vraiment littéralement 5 secondes. Après, j'en suis sortie assez rapidement. Mais c'est un truc qui nous a été, on est matrixé par ce truc-là de tu peux pas compter sur les gens qui peuvent être là pour toi. Tu vois, je parlais avec quelqu'un au début de la pause et quand on est rentré au Maroc, on me dit, ah, vous allez vous installer chez tes parents? Je dis oui. En attendant de savoir dans quelle ville on veut s'installer. On veut pas se presser, tu vois. Donc oui, en attendant, on a un pied à terre, ils ont une maison, il y a de la place. Pourquoi je vais aller louer un truc alors que je sais même pas si je vais habiter dans telle ou telle ville? Bah ouais. Ah ouais. Toi et ton mari, vous allez habiter chez tes parents? Ouais. c'est comme si vraiment tu oubliais que tu vas pas finir sous les ponts, qu'il y a des solutions, il y a des alternatives, il y aura des gens qui peuvent être là pour toi quand tu as le privilège de les avoir, tu vois. Donc je m'adresse vraiment à ces personnes-là qui ont ces privilèges-là et qui les prennent pas. Dites-vous qu'il y a des gens qui ne les ont pas, en fait, qui n'ont pas le choix. Donc si vous, vous en avez besoin et que ça vous permet d'aider votre prochain et d'aider vos clients, etc., et d'être ressourcés et régénérés pour eux, ben allez-y, en fait, qu'est-ce que vous attendez? C'est un peu ça qui me traverse l'esprit. Mais il y aurait plein d'autres raisons, effectivement.
Non, il y en aurait plein d'autres, mais c'est hyper intéressant. Vas-y, Asma, je t'en prie, vas-y.
Non, je suis d'accord. Le truc de vivre avec ses parents, c'est vraiment un truc. Hein. J'adore vivre avec mes parents. Il y a plein de gens qui me disent « Quoi ?» Mes parents, et ça veut pas dire qu'ils sont mes meilleurs potes. Hein. C'est des parents, enfin, on est tous d'accord. C'est intéressant, on va dire. C'est les schémas d'enfance. Parfois, j'observe des trucs, je me dis « Waouh, incroyable !» Mais c'est franchement, en plus, je crois que tu partais sur cette question-là, Elsa, donc ce qui s'est passé pendant notre pause, mais moi, je juste continue de vivre toute seule, j'en avais marre. Faut dire ce qui est. En plus, on est entre femmes. Donc, pour parler très concrètement, le système nerveux féminin, ce qu'il régule, c'est l'ocytocine. Donc, vivre seule, sans toucher, sans câlin, sans quelqu'un qui s'occupe de toi, qui te fait à manger, c'est un concept. Enfin, c'est un concept moderne, intéressant, mais qui nous fout bien dans la merde. Et honnêtement, je pense que j'ai pas préparé un seul repas en entier depuis plus d'un an. Et je vais très bien, honnêtement, par rapport aux années où j'ai vécu toute seule. Je me suis fait la réflexion, puis il y a pas longtemps, je me suis dit « Waouh, c'est fou !» Tu vois, genre, juste le fait de parfois avoir la flemme, quoi. Et d'envoyer un texto à ma sœur, parce que ma sœur habite avec nous, il met tout en bas, et je lui dis « T'as fait un truc à manger ?» Et là, elle toque dans ma chambre avec une assiette, dans mon lit, à 21h30, et je dis « Merci de me nourrir, parce que j'ai pas envie de faire à manger !» Mais c'est tout le temps comme ça. Et ce mode de vie aussi collectif, du coup aussi de dépanner ma sœur quand elle a besoin que j'aille chercher les enfants à l'école ou des choses comme ça, ça rend le quotidien extrêmement ressourcé. Et ça te met dans une boucle d'interdépendance. Après, c'est un stretch pour le système, parce que vivre seul, bah, tu fais ce que tu veux. Mais vivre avec d'autres personnes, ça, c'est aussi thérapeutique. Parce que ça te force à questionner plein de trucs. À questionner ta patience, ton rapport aux autres, ta capacité à poser des limites, à les incarner, ta capacité à négocier des choses, des accords. Donc moi, ça m'a énormément permis de grandir vraiment d'un point de vue relationnel. J'ai des capacités de ouf que j'avais pas quand je vivais seule. Et ça aussi, c'est intéressant de se rendre compte, mini parenthèse, c'est que quand on fait nos métiers, on a tendance à croire que faire des séances ou des espaces thérapeutiques dédiés, c'est vraiment ça qui nous fait évoluer. C'est pas vrai. C'est la vraie vie qui nous fait évoluer. Et donc, parfois, se mettre dans certaines situations de la vraie vie qui sont un étirement, c'est ça qui nous change. Et donc, moi, c'était, franchement, je suis trop contente de vivre avec mes parents. Je me dis même, j'aurais jamais cru que j'aurais fait ça, passer 30 ans. Vraiment, j'aurais jamais dit ça. Enfin, il y a 10 ans, on m'aurait dit, tu vis avec tes parents à plus de 30 ans, j'aurais dit. Pourquoi? Et là, je le vois comme du pain béni parce que ça n'arrive jamais justement dans la vie de prendre soin de tes parents qui vieillissent. À cet âge-là, je devrais être en train de faire autre chose, entre guillemets, tu vois. Et donc, ça m'apporte plein d'opportunités qui sont hyper intéressantes et c'est parce que j'ai accepté de dépendre d'eux. Donc, j'accepte de manger la nourriture que mon papa achète et que probablement ma mère va cuisiner parce que c'est elle qui aime bien faire ça. Bon, je file un coup de main, mais. Je dépends d'eux et je n'ai aucune culpabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je suis aussi redevable, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que je suis aussi responsable de mes parents. En fait, c'est comme si je suis revenue à un mode de vie ancestral où je rends des services à mon père que j'aurais pas pu rendre si je vais pas là. Donc, de prendre soin de lui, de l'aider à prendre ses médocs. Hier, je l'ai emmené faire du shopping parce qu'il est incapable de le faire tout seul. Donc, en fait, c'est des moments que j'aurais pas vécu sinon. Et donc, du coup, la dépendance ou accepter l'interdépendance, c'est aussi des moments de vie, en fait. C'est des conversations aussi qu'on n'aurait jamais eues. Je trouve que les parents, c'est intéressant parce que souvent, passé 20 à 25 ans, on se rend pas compte qu'on leur a pas posé plein de questions. Et moi, je passe mes journées à poser des questions à mes parents. sur leur jeunesse, sur le décès de leurs propres parents, sur 12 millions de choses. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on n'a pas... Enfin, on ne sait pas les conséquences des choses, en fait. Et donc, accepter juste ce qu'il y a devant nous. Par exemple, accepter, dans mon cas, de venir ici et d'arrêter de travailler. Je ne savais pas ce que j'allais en gagner comme fruit, quelles expériences de vie ça allait m'apporter. Mais la vie n'a pas déçu. Et donc, il y a aussi beaucoup de ça, je pense.
Ouais, c'est super fort, merci beaucoup. Hein. Moi, je sais qu'un des principes clés que j'ai attrapé très vite lors de ma formation auprès de Selma Sardou, qui est Anne Pavier, la pilule rouge, où avec Chamin on a été, donc c'est l'approche décoloniale de l'accompagnement, c'est cette phrase, l'autonomie dans l'interdépendance. Moi, ça m'a vraiment vachement, vachement aidé à repositionner plein de choses. Parce que moi, je sais que je suis une personne qui souvent... Enfin, je pense que je me définissais comme une personne hyper indépendante, en tout cas dans une envie d'hyper-indépendance, pas dans une forme d'identité. Mais aussi d'éducation. Hein. Mes parents, mon père surtout, nous aidait beaucoup autonomie-indépendance. Autonomie-indépendance. Enfin, vraiment, c'était des principes clés. Et donc, ça a été un vrai réapprentissage de l'autonomie dans l'interdépendance. Et je trouve que oui, ça tisse bien tout ce que tu as dit sur, et même ce que disait Chama sur l'utilisation finalement de nos propres privilèges, de faire le point, la méta des lieux de nos privilèges, et puis après de s'autoriser à vraiment les vivre. Moi, je sais pas pourquoi, mais cette phrase aussi que tu as prononcée à Asma m'a beaucoup émue sur accepter de dépendre des uns, des unes, des autres, en n'ayant aucune culpabilité. Tu vois, le fait que tu nommes ça, je me dis, putain, mais c'est vrai en fait. Coucou culpabilité, tu vois, je l'avais pas vue à cet endroit-là. Alors, je pense que je la ressens bien, et je pense que je vais continuer à infuser là-dessus, mais qu'est-ce que ça raconte pour moi, cette notion d'accepter de dépendre des uns des autres, des unes des autres, en n'ayant aucune culpabilité. Merci, merci à vous deux déjà pour tout ça. On va arriver sur la partie 2 du vraiment pendant la pause. Ça va être vraiment le moment de raconter comment vous avez vécu tout ça, vos émotions, vos apprentissages, les tensions peut-être intérieures et même, j'ai envie de dire, extérieures pendant cette période-là. Je sais, en plus, vous n'aviez pas forcément le même point de départ, pas aussi, enfin, vous me direz, même corporellement, parce que je ne sais pas pourquoi, Asma, je ne sais pas si c'était OK pour en reparler, mais moi, j'avais noté que tu avais démarré vraiment cet arrêt en étant... tu vois, presque un encéphalogramme plat, quoi. J'avais cette image de... Tu vois, est-ce que on pouvait, tu sais, parce que tu nous as raconté tout à l'heure les larmes d'amour que tu avais, finalement, comment c'est ton choix était de revenir, mais en fait, tu allais vraiment pas bien aussi, en fait, à cette époque-là. Donc, ouais, de nous raconter un peu tout ça, et ouais, qu'est-ce que vous avez découvert dans ce rien, finalement, parce qu'il y avait une forme de rencontre dans rien aussi, mais qui s'est fait avec plusieurs périodes, hein. Quelle forme a pris votre pause? Je sais qu'on avait parlé de la forme de la pause. Et c'est là aussi, Asma, tu avais parlé de finalement la forme de la vague, d'accueillir l'émergence de la vague. Comment ça a pris cette forme-là pour vous deux? Et bien évidemment, quelles ont été toutes les émotions qui ont pu accompagner cette période-là? On a pu nommer honte, culpabilité, soulagement, paix, peur, enfin voilà, plein, un cocktail d'émotions, j'imagine. Je vous laisse le micro.
Pour rebondir sur ce que tu as dit, et ouais, c'est intéressant que tu en parles de cette histoire du fait que j'étais effondrée parce que je ne m'en rendais pas compte avant de venir. Et ça qui est intéressant, c'est que je pense que pour beaucoup d'entre nous, peut-être que vous allez être nombreuses à vous reconnaître là-dedans, c'est ce truc de tant que tu es dans l'action, en fait, tu n'es pas fatigué. Parce qu'il y a un truc qui t'anime, en fait. Tu as tout doux, tes rendez-vous, enfin... d'être tout le temps dans le jus, etc. Mais une fois que, dès que je suis arrivée ici et que j'ai accepté que j'ai arrêté de travailler, mais que c'était une réelle acceptation, genre, tout le monde était d'accord à l'intérieur de moi, là, je me suis effondrée. Parce que la permission était donnée. Et là, effectivement, je dormais 12 à 15 heures par nuit, je mangeais beaucoup, il y avait comme un espèce de processus de réparation et de régénération. Il y avait 12 000 choses qui se réparaient en moi. Je pouvais vraiment avoir de la fièvre comme ça, une nuit et que ça passe. Je pouvais avoir des migraines alors que j'en ai jamais en général. Donc, il y a eu énormément de processus de réparation qui ont été comme déclenchés parce que j'étais dans les bonnes conditions. Et pour tout le monde, en fait, ça, c'est une réalité pour le coup. qu'on apprend aussi dans le travail avec le trauma, c'est que quand tu es dans les bonnes conditions, c'est là que ton système nerveux répare. Et souvent, les bonnes conditions, c'est quoi ? C'est accepter la réalité des choses et c'est accepter que, dans le cas, bah, en fait, j'enlève toute pression, retirer absolument toute pression et toute chose à faire dans mon quotidien. Ça va amener dans ce truc-là. Je sais pas s'il y avait autre chose dans ta question, mais c'est le truc qui m'est venu en tête.
C'est intéressant parce que je me souviens très bien qu'on allait préparer cette table ronde, t'avais vraiment ouais, nommé que tous les fers, tu les avais, pouf, ils étaient partis, quoi. Il n'y avait plus de to-do list, il n'y avait plus rien, quoi. Tout ce que, voilà, en fait, le défaire, quoi. T'étais dans le défaire. toi, pour toi, ça a pris quelle forme? Il y a donc finalement cette forme de défaire. Est-ce que tu as l'impression qu'il y avait d'autres formes de, tu vois, de est-ce que c'est, là, tu as parlé le lieu, donc Rabat, le retour à la maison, mais est-ce que tu avais un entourage autour de tout ça, autour de la pause, des activités spécifiques, ou c'était vraiment le rien, tu vois?
Ouais, effectivement, on en avait parlé avec Chama et toi, et ça, c'était marrant aussi comme réalisation. Je pense que Chama a des trucs intéressants à dire là-dessus aussi. C'est que souvent, quand on pense à une pause, ou à arrêter, à tout ce vocabulaire-là, ou genre un congé sabbatique, ou une pause, enfin, tout ce vocabulaire-là, on a tendance à du coup se dire qu'on fait plus rien, et c'est souvent une espèce de réflexion de en tout ou rien qui vient souvent quand on se sent coincé, alors qu'en réalité il y a tout un champ de possibilités dans ce à quoi ressemble le quotidien quand on est, comme tu disais, dans l'émergence de l'instant T. Et donc dans mon cas, ce qu'il fallait vraiment que j'arrête, parce que je voulais pas devoir quoi que ce soit à quelqu'un, donc très spécifiquement pour moi, il fallait que j'arrête mes séances. J'ai les clientes, enfin je voulais arrêter tout ça. Aucun programme, aucune consultation, rien, j'ai arrêté toute activité. Par contre, la part en moi qui aime partager, qui est créative, etc., est restée relativement active sur les réseaux, principalement en story. J'avais envie de documenter plein de choses, j'avais envie de partager plein de choses, j'avais envie de rester en contact. J'ai fait pas mal d'activités physiques, mine de rien. On a repris la piscine avec ma sœur, plein de petits trucs que je faisais pas avant. Et beaucoup d'activités familiales, beaucoup de temps passé avec mes neveux, beaucoup de temps passé en famille, beaucoup de temps passé aussi avec danser, faire des trucs, des amis tout en mêle à des endroits, et enfin des choses que tu fais quand t'as rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre quand t'as rien à faire sur le calendrier et que tu vis comme une retraitée, quoi. Ça ressemble un peu à ça, tu vois. Donc ouais, c'est un peu le truc que je pense qu'on l'avait nommé comme étant la juste relation, en fait. La juste relation avec ton quotidien. Il y a des choses avec lesquelles t'as besoin de prendre la distance. Il y a des choses que t'as envie peut-être de plus rapprocher à toi. Donc c'est un peu comme si t'étais, je suis pas du tout DJ, mais comme si t'avais les espèces de trucs des DJ là et que t'avais les réglages là. Ou les radios. C'est dans les radios, les studios d'enregistrement. Et donc t'as des petits trucs de réglage, quoi. Et qu'en fait, il y a plein de variables, il y a plein de paramètres. Et c'est pas tout ou rien.
Ouais, je suis hyper d'accord avec ça sur l'histoire de DJ, des réglages. Et c'est vraiment de l'ajustement en permanence. Parce que moi, tu vois, au début, je me disais, moi, ma pause, je veux qu'elle fasse... ce qu'il faut savoir sur moi, j'ai tendance à bien aimer avoir une direction, savoir ce que j'ai à faire, etc. Donc, j'étais là, ok, let's go, 3 mois, j'arrête les séances. Mais en vrai, j'aime bien quand même être sur Insta en story. Je kiffe mon podcast, donc je vais continuer tout ça. Ça, c'était mon plan de base, qui n'a pas marché. Et donc, j'ai arrêté les séances. Et puis, j'ai contacté 2-3 personnes sur le podcast. J'ai enregistré un épisode au bout de 1 mois pour la mise à jour, etc. Et en fait, j'étais pas en pause. J'étais absolument pas en pause. Ça continue à tourner dans ma tête. La décision de déménager, tout ça. Bon, jusqu'ici, l'ajustement, pas ouf. Je rentre au Maroc. Ça fait quasiment 3 mois que je suis en pause, mais pas vraiment. Et là, sur le mois d'avril, disons de mi-avril à mi-mai, beaucoup, beaucoup d'événements familiaux, de choses comme ça. Et donc, j'avais quasiment tous mes week-ends qui étaient pris, en plus en dehors, enfin, avec des voyages en dehors de la ville et tout. Et quand je rentrais à Rabat, je ne bougeais pas. là, c'était le rien, tu vois. Je pensais pas avoir besoin de rien, mais il s'avérait que j'avais besoin de rien. Là, c'était vraiment, je suis dans mon lit à regarder le plafond, ou à lire un roman débilos où j'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau. C'était vraiment que des moments comme ça. Et mes parents, je crois qu'ils pensaient que j'étais en dépression. Tu vois? Parce que c'est pas, déjà, ça me ressemble pas trop. Mais le rien n'est pas quelque chose qui est, bien vu. Ne rien faire, être un membre passif de la société. C'est pas bien vu. Mais vraiment, j'ai eu besoin de cette période-là où je vois pas. Pourtant, je suis quelqu'un de très sociable. J'ai tout le temps des plans avec des potes et de la famille, tout ça. Je voyais pas grand monde en dehors des trucs où j'étais obligée. Et j'ai eu besoin de cette période-là et de cette autorisation que je me suis donnée à me dire, ok, t'étais partie sur 3 mois, mais là, en fait, bon, tu reprendras quand tu reprendras. Quand je me suis autorisée à me dire, on verra, je vais pas me fixer de fin, en fait, à cette pause. Bien sûr, tu te poses 2 secondes, tu fais tes calculs, qu'est-ce qui est gérable financièrement avec les économies, le machin, la, 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 sachant que, à ce moment-là, ben, mon mari décide aussi que, il arrête le freelance et il veut trouver un taf au Maroc. Donc, à ce moment-là, c'était une autre discussion financière de, ce n'est plus toi qui vas provide, c'est ok, maintenant c'est nous deux et qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et heureusement, on a des économies, donc ça c'est cool. Et on a pris cette décision ensemble, en connaissance de cause et en se disant ok, c'est jouable. En vrai, c'est jouable. Et en plus du fait d'être chez mes parents, ça facilite quand même beaucoup la vie, quoi. Enfin, on va pas se mentir, c'est un putain de privilège. Donc ouais, à partir du moment où cette forme a commencé, voilà, tous ces petits ajustements, la forme a commencé à changer. Tu te permets de plus en plus de choses, tu te permets plus de latitude, et c'est à ce moment-là que l'énergie revient pour faire des trucs fun. T'as plus besoin du rien, parce que dans le rien, en fait, dans le rien, il y a la rencontre de tes doutes, de tes peurs, de tes plus grosses vulnérabilités, de tes plus gros moments de vulnérabilité, et t'es obligé de les regarder en face et de te laisser traverser. C'est vraiment à ce moment-là quand tu te dis vas-y, let's go, ramène tout ce que t'as à ramener, je suis prête, je vais pas me cacher, je vais pas anesthésier. Dans ce rien, en fait, il y a pas rien. Dans le vide est jamais vide. C'est hyper plein, en fait, en réalité. C'est rempli de tout ce qu'on essaye d'éviter tout le temps quand on est la tête dans le guidon. Et dans ces moments-là, j'avais pas d'autre choix que de me laisser traverser par ça. Et c'est quand j'ai fait ça que j'ai recommencé à retrouver le goût de voir des gens, de me mettre au sport. Tu vois, genre, tout le monde autour de moi me disait, mais attends, au Maroc, c'est trop cool, tu peux avoir des coachs. Franchement, c'est pas les prix de Paris. Pourquoi tu fais pas ça? Tout le monde le fait autour de toi. Je fais, ouais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire du sport. J'ai pas envie de. Et il m'a fallu juste le temps d'accepter de vivre ce que j'avais à vivre pour que l'envie revienne et de m'y mettre, tu vois. C'est aussi accepter que ces moments-là sont hyper riches, en fait, contrairement à ce qu'on projette sur toi. Donc ouais, on passe de confusion, culpabilité, honte, un peu quand au début t'essayes d'avoir un plan prédéfini, à lâcher prise, accepter de traverser tout ça et honnêtement de tenir bon face à tout ce qu'on va projeter sur toi. Et heureusement que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui traversaient un peu les mêmes choses. Je pense que j'aurais pas réussi à faire ça de la même manière et avec autant de, je sais pas si je dirais facilité, mais peut-être quelque chose de l'ordre de la fluidité, si j'avais pas le soutien de mon mari à 100% qui comprenait pourquoi je faisais ça et qui le voyait, et 2, si j'avais pas autant de potes en vrai qui traversaient plus ou moins les mêmes trucs que moi, J'avais raconté à Asma une fois, donc déjà il y avait Asma qui traversait le même truc, mais même dans mes potes qui sont au Maroc depuis quelques années, un jour, c'était très drôle, on va dîner, on est 8 à table, et à table, dans cette table-là, il y avait une personne qui avait un taf à ce moment-là. Donc, une sur les 8. Et là, on se regarde, on se dit, c'est des trucs qui arrivent jamais, en fait. C'était ou des gens en pause, ou des gens qui étaient à la recherche d'un nouveau taf, mais qui se pressaient pas parce qu'ils voulaient trouver le bon truc, ou des gens qui étaient en train de se reconvertir dans je sais pas quoi. Enfin, et c'était hyper cool de pouvoir échanger avec des gens qui vivent les mêmes choses. Et de pas se sentir nul. Je pense que si j'étais, que si je faisais ça toute seule à Paris, entourée de la Startup Nation, je sais pas à quel point j'aurais vécu ça de la même manière.
Tu vois. Un cauchemar.
j'aime profondément mes potes de la Startup Nation, hein. Mais c'est vrai que si j'étais toute seule à faire ça, ouais, je l'aurais pas vécu pareil.
Ah ouais, c'est clair. Alors on revient sur la notion d'interdépendance, quoi. C'est de finalement sentir aussi la résonance autour. Et avant de plonger peut-être sur cette notion de parce que forcément, quand tu dis que ça arrive jamais d'avoir en fait ces personnes qui sont finalement peut-être dans les mêmes stades que toi ou dans les mêmes réflexions, moi ça me questionne sur qu'est-ce que ça raconte finalement aussi d'un point de vue collectif. Mais je garde ça, j'ouvre un onglet, je reprendrai ça juste après.
Et voilà la team du Turfu, c'est tout pour cet épisode d'Accompagnante. J'espère que vous avez kiffé autant que moi et que vous repartez avec votre dose de power. Rappelez-vous, Accompagnante, c'est un podcast et c'est aussi un espace, une communauté qui a besoin de votre force pour grandir. Alors pensez bien à vous abonner au podcast et à laisser une note et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est totalement gratuit, mais votre soutien n'a pas de prix pour moi, alors vraiment merci. Merci en fait de prendre ce temps-là. Et si vous voulez soutenir Accompagnante par le pouvoir de l'argent, vous pouvez le faire via un don libre, c'est totalement possible. Je vous mets le lien de la cagnotte en description. Et d'ailleurs, en description, vous pouvez aussi retrouver toutes les ressources mentionnées dans l'épisode. Et pour aller plus loin, c'est sur mon site internet, elsacouteiller.com. La team, si vous avez aussi envie de partager vos tilts concernant l'épisode, si vous avez des questions, des idées de sujets ou des invités que vous aimeriez entendre dans de futurs épisodes, vous pouvez me contacter sur Instagram à @elsacouteiller. En attendant, continuez à repolitiser votre pratique d'accompagnement et à être les véritables révoltés dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'accompagnante. Je vous dis à plus dans le bus de la révolution et prenez bien soin de vous.
Et de repolitiser votre chemin d'accompagnement et changer le monde.
Je vais monter le volume ensemble.
On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change.